Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un ange, face à une jeune vierge, tout juste fiancée, une jeune fille toute resplendissante de grâce, qui n'a jamais connu le péché, et qui va se trouver face à un choix décisif pour tout l'avenir de l'humanité. Cette situation ne s'est pas produite une seule fois dans notre histoire, mais à deux reprises, et avec une conclusion très différente. La première femme à rencontrer un ange fut Ève, notre première mère. Ève, qui avait été créée immaculée, sans péché. Ève, qui jouissait de la grâce de Dieu. Ève, qui n'avait jamais connu le péché et qui, dans son innocence, ignorait même ce que c'était. Mais c'est un ange déchu qui vint la trouver, au nom de tout l'enfer, pour atteindre par son intermédiaire le chef de l'humanité, Adam, et réduire ainsi toute l'humanité en esclavage. Car Satan, dans son malheur éternel, ne pouvait pas supporter le bonheur des hommes. Et il avait bien compris qu'Adam était le chef, la souche de toute une race qui devait occuper au ciel la place des anges déchus. Il ne pouvait pas supporter cette idée. C'est donc Adam qu'il visait, principe et chef de tous les hommes. Mais une intuition géniale le fit agir par l'intermédiaire de sa compagne, sa jeune fiancée, la future mère de toute l'humanité, Ève. Car la haine est souvent perspicace et Satan avait bien compris d'emblée le rôle décisif de la femme dans le plan de Dieu. Plusieurs milliers d'années plus tard, une autre jeune femme reçoit une toute autre visite, celle d'un ange encore, mais un ange du ciel qui vient en ambassadeur de Dieu pour conclure définitivement la guerre que notre premier père avait si imprudemment déclarée à notre Créateur. L'ange s'incline et salue. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Nous connaissons bien cette salutation, mes frères. Nous la récitons très souvent dans la journée. Mais remarquons-nous suffisamment que cette scène de l'Annonciation contient déjà et explique tous les privilèges de Notre-Dame. À l'heure où malheureusement le protestantisme se répand à nouveau et injurie notre Mère du Ciel en attaquant méchamment chacun de ses privilèges, il n'est pas inutile de s'y attarder. Remarquons d'abord comment cet ange du ciel, cet ange qui vient de Dieu, l'Évangile le précise bien, salue avec respect cette jeune fille de Nazareth. « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Une femme qu'un ange du ciel traite de cette façon, pourrions-nous, nous autres, pauvres humains, lui manifester moins de respect ? Un très grand mystère s'accomplit dans le sein de Marie, un mystère divin que l'ange essaye d'expliquer en notre langage humain en déclarant « Vous concevrez et vous enfanterez un fils. L'Esprit-Saint viendra sur vous. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi l'être qui naîtra de vous sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. » Autrement dit, ça sera bien votre fils, conçu par vous et enfanté par vous. Mais en même temps, et d'une autre manière, il sera aussi fils de Dieu. Ce qui, très logiquement, mérite à Notre-Dame le titre de Mère de Dieu, puisqu'elle est mère de quelqu'un qui est Dieu. Certes, elle ne lui donne pas sa divinité. Le Verbe de Dieu est Dieu de toute éternité. Il ne reçoit sa divinité que de son Père. Sa génération éternelle est purement spirituelle, sans intervention d'une mère. Mais à partir du moment où le Fils éternel de Dieu veut assumer une nature humaine, à partir du moment où pour cela il reçoit sa chair humaine de la Vierge Mère, il devient en même temps réellement son Fils. Marie est mère de Jésus, Jésus qui est Dieu. Elle a donc réellement droit au titre de mère de Dieu. Et ceux qui veulent lui nier ce titre attaquent en fait Jésus-Christ lui-même dans le mystère de son incarnation. Remarquons également comment, pour réaliser ce mystère, Dieu veut, par son ange, demander l'accord de la très sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge donne cet accord. Ce sont les dernières paroles sur lesquelles s'est conclu l'évangile qui vient d'être chanté. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Autrement dit, « J'ai écouté votre parole et je l'accepte, je la garde, je veux obéir. » Et voilà une phrase de Notre-Dame qu'il faut bien retenir quand on entend ensuite un autre passage rapporté par le même évangéliste, saint Luc, qui raconte comment, alors que dans l'assistance, une femme s'était écriée à Jésus, « Heureux le sein qui vous a porté, les mamelles qui vous ont allaité !» Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent !» Les protestants veulent se servir de ce passage pour abaisser la très sainte Vierge Marie en disant que sa maternité divine n'a pas une si grande importance, que ce qui est important, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la garder, et que d'une certaine façon, Jésus rabrouerait presque sa propre mère. Mais en réalité, c'est précisément ce qu'a fait la très sainte Vierge Marie, d'écouter la parole de Dieu et de la garder, de l'accepter en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon votre parole ». Ce qui signifie que le plus important n'est pas le fait que la très sainte Vierge soit physiquement mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mère de Dieu, mais que par ses dispositions, par l'acte de volonté qu'elle a accompli, elle se soit, sous la motion de la grâce, rendue digne mère de Dieu. Elle s'est ainsi elle-même préparée à pouvoir dignement être mère de Dieu. Et en cela, elle mérite particulièrement d'être louée, plus que dans le simple fait physique d'avoir engendré notre Seigneur. Voilà ce que notre Seigneur déclare. Dans leur haine satanique contre Notre-Dame, certains protestants veulent aussi à tout prix nier sa virginité perpétuelle. Ils diffusent des tracts affirmant que l'Évangile parle des frères de Jésus. Et ils en concluent que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Mais en réalité, les sémites appellent frères tous les membres de la parenté. Et il est très clair dans l'Évangile que ceux qui sont nommés frères de Jésus sont plus âgés que lui, ce qui prouve bien que ce sont en fait des cousins. D'ailleurs, si Jésus avait eu des frères, il n'aurait pas eu besoin de confier sa mère à saint Jean avant de mourir sur la croix. Mais la grande preuve scripturaire de la virginité perpétuelle de Marie se trouve encore dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de l'Annonciation. Troublée par l'ange qui lui annonce qu'elle concevra un fils, Marie demande immédiatement « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. » Or, l'évangéliste a précisé juste au-dessus que la Vierge Marie était fiancée à Joseph. Cette question prouve donc, de façon évidente, qu'elle était décidée à conserver sa virginité et que cette question avait déjà été ainsi résolue avec saint Joseph. Il faut aussi noter, mes frères, dans ce récit de l'Annonciation, la façon dont Marie est déclarée par l'ange pleine de grâce et bénie entre toutes les femmes. Cette bénédiction est très importante puisque depuis Adam et Ève, l'humanité est au contraire sous le coup d'une malédiction divine. Adam et Ève ont été créés sans le péché originel, bien sûr, mais depuis qu'ils l'ont commis et depuis qu'ils ont ainsi encouru la malédiction de Dieu, ils transmettent ce péché à tous leurs descendants. Et normalement, logiquement, Marie aussi aurait dû encourir cette malédiction. Elle aurait dû aussi hériter de la faute de nos premiers parents. Mais l'ange déclare clairement qu'il n'en est rien. Marie est pleine de grâce et elle est bénie entre toutes les femmes. Et comme cette scène de l'Annonciation est très visiblement parallèle et en contradiction avec la scène de la visite du mauvais ange à notre première mère, Ève, cela signifie bien clairement que la Sainte Vierge est davantage bénie qu'Ève. Elle vient abolir la malédiction portée par Ève. Or, puisque Ève elle-même a été créée immaculée, il est logique que Marie, elle aussi, ait été conçue immaculée. C'est absolument nécessaire, c'est ce que dit l'ange. Et pourtant, il faut bien comprendre que ça ne se passe pas de la même manière dans les deux cas. Ève n'avait pas à recevoir le péché originel, puisqu'elle a été créée avant le péché. Marie, elle, aurait dû le recevoir. Elle a été préservée du péché par une bénédiction spéciale, une protection spéciale qui lui est accordée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'elle est dite « bénie entre toutes les femmes ». Et répondons ici rapidement à une autre objection qui est souvent faite par les protestants. Ils disent dans leur tract « l'Immaculée Conception est impossible parce que la Sainte Vierge elle-même déclare dans son Magnificat qu'elle bénit Dieu son Sauveur. Donc, disent-ils, si elle a eu un Sauveur, elle avait besoin d'être sauvée, donc elle avait besoin d'être sauvée du péché, donc elle avait le péché originel. » En réalité, Pie IX a bien défini que la Sainte Vierge a été sauvée. Elle n'est pas comme Ève avant le péché, qui était totalement en dehors de la logique du péché originel. Elle aurait dû encourir le péché originel. Elle en a été préservée par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle a été sauvée d'une façon bien plus excellente que nous, puisque nous, nous sommes sauvés et guéris après coup, tandis que la Sainte Vierge en a été totalement préservée. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une œuvre de salut opérée et méritée par notre Seigneur Jésus-Christ. Marie a bien été sauvée, elle peut honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, mais elle a été sauvée d'une façon bien plus excellente que nous. Enfin, il faut noter combien cet évangile de l'Annonciation nous montre Marie comme la médiatrice, comme l'intermédiaire, celle que l'ange vient consulter, celle dont il veut obtenir l'accord avant que le nouvel Adam puisse venir faire son œuvre de réparation. Vous savez que ce parallèle entre le premier Adam et le nouvel Adam et donné par saint Paul lui-même dans son épître, et que ensuite, très vite, les pères de l'Église, dès le IIe siècle, saint Irénée, ont aussi fait le parallèle entre la première Ève et la seconde Ève, la très sainte Vierge Marie, en montrant comment la première Ève a participé au péché d'Adam, la deuxième Ève a aussi participé à la rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que montre déjà cet évangile de l'Annonciation. Donc nous pouvons réellement honorer la très sainte Vierge Marie sous le titre de médiatrice, non pas médiatrice de la même façon que notre Seigneur est médiateur, car il est vrai qu'il n'y a qu'un seul médiateur, en ce sens qu'il n'y a qu'un seul pont entre Dieu et les hommes, et ce pont est notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Vierge, quand on dit qu'elle est médiatrice, on ne lui attribue pas le rôle d'un autre pont, un deuxième pont qui serait parallèle au premier et qui pourrait permettre d'éviter le premier. Ça n'est pas ça du tout. Donc, notre Seigneur est bien le seul médiateur, mais la très sainte Vierge Marie est médiatrice auprès de lui pour nous introduire à notre Seigneur Jésus-Christ, nous aider à nous approcher de lui, et c'est même par elle que Jésus-Christ nous est venu, comme l'explique bien saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc, profitons bien de cette fête de l'Annonciation pour honorer la très sainte Vierge Marie, l'honorer sous chacun de ses titres, chacun de ses privilèges. Essayons de réparer ces blasphèmes qui sont diffusés un peu partout contre elle. Vous savez qu'il est demandé de réparer contre les blasphèmes et les offenses au cœur immaculé de Marie et toutes ces négations partout répandues par les protestants sont certaines de ces offenses qui évidemment offensent notre Seigneur car généralement on ne peut pas davantage offenser un homme qu'en offensant sa mère et notre Seigneur lui-même a pratiqué à la perfection le quatrième commandement de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Il a donc parfaitement honoré sa mère et il est complètement outragé quand on l'outrage. Donc, essayons-nous de réparer, d'honorer la très sainte Vierge, et puis en même temps, voyons bien que tous ces privilèges ont été donnés pour elle et pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour nous. Dans la mesure où nous les honorons, dans cette mesure aussi, nous recevons les grâces que la Sainte Vierge veut nous transmettre. Donc, Jésus mérite d'être honoré dans sa mère, la très sainte Vierge Marie mérite d'être honorée comme notre mère, mais nous aussi, même dans notre seul intérêt, nous devons le faire pour pouvoir recevoir toutes les grâces que Jésus veut nous accorder par sa très sainte mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.